les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Partis à la découverte de l'œuvre de Beethoven, nous poursuivons le cours du 5e cycle de l'hommage que Brigitte et Jean Massin lui avaient rendu à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance. Beethoven, année 200, donc 5e séquence, où d'une part Olivier Messiaen évoquera ce qu'il appelle la réalité beethovenienne, et d'autre part Yanis Xenakis qui, lui, posera côte à côte les deux figures de Mozart et Beethoven.
Dans notre dernière émission, nous avions examiné avec André Jolivet la situation de Beethoven dans cette période qui va de l'âge wagnérien à la Deuxième Guerre mondiale et la remise en question de Beethoven à cette période par un certain nombre de musiciens. À présent, c'est de l'actualité de Beethoven parmi les musiciens contemporains vivants que nous allons nous entretenir. Et pour cela, nous allons interviewer un certain nombre d'entre eux, pour commencer aujourd'hui, Olivier Messiaen et Yanis Xenakis. Voici d'abord l'interview d'Olivier Messiaen à la sortie d'une de ses classes du conservatoire.
Olivier Messiaen, vous avez beaucoup parlé de Beethoven dans vos classes de composition, dans vos classes d'analyse, et les élèves qui ont suivi votre enseignement en gardent un souvenir extraordinaire, et vous leur avez fait redécouvrir Beethoven. Ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est que ce que, pour vous, compositeur, Beethoven peut encore représenter, ou ce que Beethoven peut avoir d'actuel pour un compositeur aujourd'hui.
Je pense que Beethoven, par le fait même que c'est un génie, a toujours été actuel. Les génies sont toujours actuels. Un génie, c'est toujours une chose qui reste une première fois, qui garde sa virginité. Bien sûr, quand même, vis-à-vis d'un certain public, comme pour tous les grands compositeurs, il y a eu, dans l'impact beethovenien, des hauts et des bas. Il a certainement été très mal compris de son vivant. Il a été vraiment mis à sa place par certaines personnes tout de suite après sa mort. Enfin, je citerai au moins deux noms qui, de façon diverse, ont admiré Beethoven. Pas toujours comme il fallait, mais enfin, ils l'ont aimé vraiment, c'est Vincent d'Indy et c'est Romain Rolland. C'est de façon très diverse, n'est-ce pas ? L'un et l'autre. Et on peut dire que pour les musiciens de ma génération et de la génération qui a suivi immédiatement la mienne, c'est-à-dire pour des gens comme Jolivet et moi-même, ou pour des gens comme Boulez et Xenakis, son impact a été excessivement fort. Et ceci parce qu'on trouve dans Beethoven, on peut dire dans toutes ses œuvres, le principe de la variation perpétuelle, ce que Dindy appelait la variation amplificatrice, poussée à ses plus extrêmes limites, avec un langage qui quelquefois n'est pas à la hauteur de la situation, parce qu'il n'avait, pas les moyens à son époque, avec le langage tonal, de faire tout ce qu'il voulait. Mais l'intention y est, et le résultat y est aussi. Il y a vraiment ce que nous cherchons tous maintenant, de la variation perpétuelle, et une espèce de renouvellement du matériau musical par la variation qui se fait constamment. Et ça, c'est très, très sensible dans les très, très grandes œuvres, comme par exemple les 33 variations sur un thème de Diabelli pour piano, comme l'opus 106 pour piano, comme certains quatuors à cordes, dans les derniers surtout, et comme l'adagio de la 9e symphonie, par exemple.
Et est-ce que les compositeurs, alors, qui reçoivent ces œuvres comme ça, ils voient surtout presque une nouvelle notion du temps ou une nouvelle dimension de la musique ?
Oui, je ne sais pas si ça rentre tellement dans le cadre beethovenien, cette question. C'est plutôt l'évolution du matériau qui me semble une chose importante. Vous savez qu'il a été le créateur, en principe, du développement musical. Une chose que d'ailleurs que nous avons perdue maintenant, nous sommes de plus en plus statiques. Et dans ce développement qui existait déjà avant lui d'une façon merveilleuse chez les autres classiques, et notamment chez Mozart, au point de vue tonal et au point de vue de la marge des couleurs, il a introduit quelque chose de très particulier qui est ce que Dindy a appelé le développement par élimination ou par amplification, ce qui revient même c'est dans l'autre sens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un thème qui est un personnage vivant et qui se réduit progressivement à son substratum, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à quelques notes, comme, presque comme un boxeur, n'est-ce pas, qui dit un point P-O-I-N-G, un point c'est tout. Mm. Ben, il se réduit à son substratum.
On pense là à certaines questions de rythme chez Beethoven.
Et oui, c'est d'ailleurs un phénomène rythmique, puisqu'il s'agit de fragments souvent rythmiques, de plus en plus resserrés, de plus en plus rapetissés. Et c'est d'ailleurs à l'origine de ce que j'ai appelé les personnages rythmiques chez Stravinsky. C'est au fond la même idée.
Est-ce que dans l'œuvre de Beethoven, il y a une ou plusieurs œuvres qui vous paraissent particulièrement typiques de la modernité que Beethoven peut conserver encore aujourd'hui ?
Oui, il y a une œuvre qui me paraît extraordinairement moderne et actuelle, c'est la sonate opus 106 pour piano. Je ne vais pas vous parler de toute la sonate parce que ça serait trop long, mais je voudrais parler surtout du troisième et du quatrième mouvement, c'est-à-dire de l'adagio et du final qui est une fugue. L'adagio, à mon sens, est le chef-d'œuvre de Beethoven. C'est pour moi ce qu'il a écrit de plus élevé comme pensée. Et puisque vous m'avez fait la gentillesse de venir à ma classe, vous avez vu tout à l'heure, j'ai un jeune élève vietnamien et qui a parlé occasionnellement de Dante. Eh bien, je pense que l'adagio de la 106 se rapporte assez bien à cet épisode du Dante où on voit Dante et Virgile au bas de la grande muraille du purgatoire. Il y a un tout petit coin de ciel. Oh, il est très petit, il est tout à fait en haut. Et puis, il y a l'immense, la désespérante muraille. Et cet adagio, c'est ça, c'est cette désespérante muraille, mais il y a continuellement une petite modulation à la sixte napolitaine, comme c'est en fa dièse mineure, il y a un petit coin de sol majeur qui est un petit coin de ciel, qui revient dans le thème, qui revient dans les variations amplificatrices du thème, et qui revient un peu tout le temps, et qui répond absolument à cette extraordinaire muraille avec ce petit coin de ciel du purgatoire du Dante. Il y a une autre chose extraordinaire dans cet adagio, c'est la réexposition du thème. J'ai parlé tout à l'heure de variations amplificatrices. Et là, c'est une variation tout à fait particulière. C'est une variation ornementale plutôt, mais pas à la façon des chorales ornées de Bach. Le thème est comme dilué dans l'ornementation et dilué à tel point que cette ornementation s'étend sur plusieurs octaves. Elle a un ambitus très large. Et finalement, on en suit très difficilement le contour mélodique s'il n'y avait pas la main gauche. Pour le souligner, le thème serait presque méconnaissable et on dirait non seulement qu'il a perdu ses habits, si vous voulez, mais même qu'il a perdu son âme. Et c'est une chose ça très très moderne. Un thème qui est comme dépouillé de lui-même et réduit tout à fait au substratum, nous en parlions tout à l'heure pour le côté rythmique, mais là c'est pire, c'est la mélodie qui est comme diminuée par la surcharge qui l'entoure. Je crois que c'est une chose extraordinaire et très moderne comme esprit et comme idée. Et enfin, je voudrais vous parler maintenant du morceau qui termine la sonate opus 106, introduction et fugue. Il y a d'abord l'introduction. L'introduction est une chose très moderne parce qu'elle se divise, si vous voulez, en quatre éléments. On peut dire que ce sont des blocs temporels alternés. Il y a d'abord un élément A qui est une note unique. Si je me rappelle bien le texte, je crois que c'est un Fa au départ. C'est une note unique et une note unique qui est répandue sur toutes les octaves du clavier, ce qui était une très nouvelle façon déjà de traiter le clavier à l'époque. Ça s'adresse donc à l'ordre des hauteurs, puisque c'est répandu sur plusieurs octaves de hauteur. L'élément B traite de l'épaisseur et du rythme, c'est-à-dire de l'ordre des densités et de l'ordre quantitatif. Et enfin, l'élément C est un élément contrapontique. Et ces blocs, chacun de ces blocs est traité différemment. La note répandue est statique, bien sûr. Le contrepoint est de plus en plus long. Et l'élément rythmique est au contraire de plus en plus court. Et puis il subit la pression d'un nouvel élément qui est l'accelerando. Et à la progression de densité s'ajoute la progression d'intensité et la progression cinématique puisqu'il y a l'accelerando. Et enfin, suit un passage trié qui prépare directement la première entrée du sujet de fugue. Je crois que nous avons là affaire vraiment, c'est un peu technique ce que je viens de dire, mais vous remarquerez que je n'ai employé aucun terme technique classique.
Oui,
j'ai été obligé de recourir à des termes tout à fait actuels, modernes, parce qu'on ne peut pas expliquer cette chose-là avec, selon les normes classiques. Alors ensuite, il y a la fugue qui est tout de même, je crois, la fugue la plus extraordinaire qui existe. Et il y en a eu de très étranges dans l'art de la fugue de Bach. Mais celle-là, elle les dépasse. Il en a d'ailleurs eu conscience parce que je crois qu'il a marqué en tête de la première page de la fugue « Fugue con alcune licenze ». Et donc il a pensé que ce n'était pas une fugue ordinaire. Et il y a d'abord le sujet de fugue, qui est un sujet de fugue comme on n'en a jamais vu, qui contient, il faut le décomposer de bout en bout, une note d'attaque piquée. Ensuite, un trille, deux éléments qui sont un peu extra-musicaux, comme vous voyez, une note piquée, un trille, ce sont des trille, c'est un élément d'ondulation. La note piquée, c'est un élément presque de percussion. C'est tout à fait en dehors de ce qu'on a l'habitude d'appeler un sujet de fugue. Et après, il y a un mouvement conjoint, descendant, retourné vers l'aigu, et puis un trait en double croche qui souffle comme un vent d'orage. Et qui est lui aussi un peu indépendant d'un sujet de fugue et indépendant aussi d'un morceau de piano. D'ailleurs, cette pièce est très très difficile à jouer pour les pianistes, il faudrait être un véritable Hercule pour la jouer correctement. La fugue est sortie de ce sujet, car elle est vraiment tout entière une tempête d'abord, et ensuite que la matière trille, hein, donc le mouvement ondulé, y prend de plus en plus d'importance. Je tiens à signaler deux ou trois choses absolument extraordinaires. Il y a d'abord, vers la troisième ou quatrième page de la fugue, un endroit absolument formidable où nous avons une augmentation, un sujet et un contre-sujet par augmentation. On a déjà vu des augmentations dans Bach et même dans les contrapuntistes qui avaient précédé Bach. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que tout est par augmentation. On a l'impression que ce qui était joué par des hommes jusqu'ici est passé sur une autre échelle et que c'est joué par des géants. Et c'est d'ailleurs très difficile à jouer parce qu'il faut jouer avec une grande force. On n'aura jamais assez de force et une attaque assez violente, assez puissante pour jouer ce passage. Et enfin, il y a une autre chose extraordinaire qui est signalisée, si j'ose dire, de façon très frappante et que pourtant personne n'a remarqué. Cette fugue est en principe en si bémol, oui, parce que ça bouge beaucoup. Oui. Mais il y a tout de même un endroit, un ton extraordinaire, tout à fait insolite. On se trouve en si bécart mineur. C'est vraiment, on ne va pas trouver un ton plus lointain. Et on entend des choses de plus en plus bizarres, notamment on entend un trait qui est suivi d'un silence, et puis on entend un trille et une note piquée isolée. Il me semble que tout ça aurait dû attirer l'attention des commentateurs. Il s'agit en effet du sujet par mouvement rétrograde. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait eu avant en sens droit, on l'a dans le sens inverse. Donc on commence par le vent de tempête, on continue par les mouvements mélodiques retournés, on a ensuite la matière trille, et enfin on a pour finir la note d'attaque, la note de début, la note piquée. Je ne crois pas que dans toute l'histoire de la musique, en dehors peut-être de Guillaume de Machaut, il y ait eu l'emploi d'un mouvement rétrograde aussi conscient et mené à bout avec tant de soin. Et c'est tout de même une chose extraordinaire pour l'époque, et d'autant plus extraordinaire qu'elle présage au fond ce qu'on a fait depuis tant de fois sur des bandes magnétiques, en passant des musiques à l'envers et même des sons à l'envers.
Et toute la notion de musique miroir.
Et bien entendu, toute la notion de musique miroir, vous avez raison, voilà, on pense tout de suite à Webern et puis à Boulez par contre. Et évidemment, ce sujet rétrograde amène une exposition rétrograde et puis un divertissement avec des rétrogrades contraires, des contraires rétrogrades, enfin toutes les choses que Schoenberg a préconisées par la suite. Et c'est tout de même curieux que Beethoven a pensé à tout ça à son époque. Et enfin, j'en passe parce qu'on ne peut pas analyser tout ça aujourd'hui, ça serait trop long. Il y a un deuxième sujet, et puis combinaison des deux sujets, ça d'autres auteurs l'avaient fait, c'est ce que tout le monde a remarqué, et c'est moins important. Mais ensuite, vers la fin de la fugue, il y a progressivement une augmentation de la matière trille, et cette matière trille, qui est finalement ce qu'il y avait de plus insolite dans le sujet, finit par submerger tout le reste, à telle enseigne qu'on termine sur le trille. Et c'est même un super trille, parce qu'il est écrit sur trois octaves, et pour le pianiste, ça présente de graves problèmes. Il faut truquer pour arriver à faire un triple trille en octaves.
En somme, c'est une valorisation du timbre, comme on dirait aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire c'est une valorisation surtout de la matière ondulée. Il a considéré le trille comme une matière particulière, et il a développé cette matière particulière. Au lieu de développer un thème, il a développé une matière. Ça, c'est une idée très moderne.
Puis-je vous poser une dernière question ? De par votre enseignement et de par la place que vous tenez dans la musique vivante, vous êtes à même de rencontrer et de connaître beaucoup de jeunes musiciens. Comment vous semble-t-il qu'ils se situent par rapport à la musique beethovenienne ?
Il y a une chose qui me frappe, c'est que pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, on a travaillé, en acceptant, si vous voulez, les troubadours, mais on a travaillé un peu collectivement. Il y avait en tout cas un style d'équipe. Et c'est même très gênant pour les musicologues quand on écoute certaines musiques du XVIe siècle ou du début du XVIe siècle, eh bien, elles se ressemblent. Et bien souvent, vous entendez un Rameau ou un Campra, mais vous ne savez pas, vous ne pouvez pas dire exactement de qui c'est si on vous joue une mesure séparément. Il y avait donc une espèce de style corporatif. Et le premier musicien qui a dit non et qui a voulu être lui-même, curieusement, c'est l'homme le plus angélique, le plus pur et le plus simple qui soit, c'était Mozart. Mozart, en somme, a brisé avec la tradition du musicien corporatif, avec la tradition du musicien inféodé à une cour princière, étant en somme le domestique d'un quelconque duc, prince ou archevêque. C'est le cas pour Mozart.
Encore que peut-être les contemporains n'ont pas toujours été sensibles à ce que vous dites, puisqu'on le disait à Vienne à l'époque, le lundi, Mozart compose comme Haydn, et le mardi, Haydn compose comme Mozart.
Eh bien, on se trompait, parce que je pense qu'il y a d'énormes différences entre les deux auteurs. Haydn est un homme de génie, certainement, une grande intuition. Et permettez-moi de vous dire que son accentuation est de travers, alors que celle de Mozart est juste. Et que sa forme est de travers, alors que celle de Mozart est juste, et ainsi de suite. Mozart est un musicien qui ne s'est jamais trompé dans aucun domaine. C'est peut-être le plus grand technicien qui ait jamais existé. Mais ce qui est remarquable, et j'y reviens, c'est que vis-à-vis de son méchant archevêque, Colloredo, n'est-ce pas ?
Colloredo,
un jour, il a dit non, il a rendu son tablier, et ça n'a pas été sans mal, car en somme, il était heureux, tout de même à Salzbourg. Et ensuite, il est parti à Vienne, en somme, pour mourir de faim.
Absolument.
On a raconté, il y a beaucoup de légendes sur sa mort, mais enfin, finalement, il est mort de ça. Finalement, il est mort d'épuisement, de faim, de travail, de misère, d'épuisement, n'est-ce pas ? Et ça, parce qu'il a voulu être Mozart tout court.
C'était la naissance de l'individu en musique.
Parler à la première personne du singulier.
Exactement.
Dire « je ».
Il a dit « je ». Il a dit « je », et il me semble que de tous les musiciens, celui qui a dit le plus « je », peut-être, après Mozart, c'est Beethoven. Il est venu en seconde ligne parce que c'est la collection chronologique qui joue, n'est-ce pas ? Mais tout de même, Beethoven est un musicien individualiste au sens le plus fort du terme, n'est-ce pas ? En somme, toute son œuvre elle, n'est que le reflet de son drame intérieur. Et il y a eu ensuite, bien sûr, les grands romantiques qui ont dit « je », alors avec des J majuscules comme Wagner, comme Berlioz. Mais enfin, le lancement a été fait. Et curieusement, maintenant, figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai subi une interview où j'ai eu le malheur de dire qu'une œuvre était réussie. Et je me suis fait engueuler parce qu'on m'a dit « Ah, il n'y a plus de réussite parce qu'il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus d'œuvre parce qu'il n'y a plus d'auteur. » Et je dis « Mon Dieu, mais qui pense ainsi ?» On m'a dit « Mais ce sont les jeunes. Les jeunes pensent qu'on va retourner à un style collectif et même qu'on n'écrira plus de musique, on fera de l'improvisation collective et on sera des produits de consommation. » Ce sont les horribles termes que l'on emploie actuellement. Je m'excuse, je suis obligé de reprendre ce vocabulaire, je le trouve affreux. Et ça me paraît très très grave d'ailleurs, cette disparition du jeu et de la personnalité. Ça me paraît anti-humain. Mais je suis heureux que vous m'ayez questionné sur Beethoven, parce que Beethoven, justement, me semble le sommet de l'homme qui s'affirme et qui travaille sur son moi intérieur. Et c'est justement pour ça qu'il est si émouvant vis-à-vis du grand public. C'est parce que chacun peut s'y retrouver soi-même.
Dès les premières phrases de cette interview que vous venez d'entendre, c'est Olivier Messiaen lui-même qui prononçait le nom de Xenakis. Yannis Xenakis, un musicien bien différent, d'une génération nouvelle. Nous avons été lui demander, à lui aussi, comment se posait pour lui l'actualité beethovenienne. Et voici l'entretien que nous avons eu avec lui.
Yannis Xenakis, nous sommes tout à fait heureux d'être avec vous et de vous prendre quelques instants sur votre travail qui est toujours en cours et toujours renouvelé. Et nous voudrions vous poser quelques questions, puisqu'un jour vous vous êtes déjà exprimé là-dessus dans un journal, sur, par exemple, la comparaison entre Mozart et Beethoven. Vous aviez, dans ce court entrefilé, dit que Beethoven, pour vous, c'était, dans un sens, une musique de l'intelligence. Vous n'en disiez pas autant pour Mozart.
C'est vrai, la quantité d'intelligence que j'ai rencontrée chez Beethoven depuis quand j'étais assez jeune est énorme par rapport à ce que j'ai rencontré chez Mozart ou chez Haydn. C'est tout un monde très différent, un tempérament différent. Et c'est ce qui me fait dire que Beethoven, c'est une façon de penser en musique, par la musique, pas en musique, mais par la musique, par les sons. Et je ne trouve pas cette chose-là chez Mozart ou Haydn.
Ce qui vous intéresserait donc, ce serait une certaine cérébralité qu'on sent dans la musique de Beethoven.
Bon, il ne faut pas dire cérébralité parce que c'est un mot entaché de toutes sortes de mauvaises choses. Cérébralité, si vous l'entendez au sens d'effort intellectuel ardu et très riche et divergent et convergent en même temps, oui, bien sûr. Mais si c'est pour dire c'est une chose sèche et desséchante par conséquent, non, je ne trouve pas.
Peut-être simplement qu'il y a derrière certaines des œuvres de Beethoven une pensée qu'on sent très forte et très personnelle.
C'est une façon d'être chez lui qui s'exprime par une pensée qui elle-même s'exprime par les sons. Vous voyez, c'est donc sa pensée est une forme d'exister, d'existence, d'être. Ce n'est pas un comportement seulement, c'est une réflexion perpétuelle. Et c'est ça qui est important, c'est une réflexion globale qui s'exprime, qui arrive à s'exprimer par des sons.
Est-ce que pour vous, cette réflexion globale est distincte d'une réflexion philosophique? Je veux dire, est-ce que pour vous, chez Beethoven, il y a une réflexion qui s'exprime plus directement par la musique et qui ne trouverait pas son équivalent dans la réflexion par les concepts et par les mots?
Je ne sais pas, ce n'est pas la même chose. C'est ce qui fait peut-être une dimension spécifique à la musique, que les choses explorées par les sons ne sont pas traduisibles intégralement sous une forme ou autre d'une pensée abstraite, qu'elle soit philosophique ou physique ou mathématique ou de concept, je veux dire.
C'est presque au fond ce que Beethoven disait lui-même quand il disait à Bettina que sa musique constituait une révélation et une sagesse plus haute que toute philosophie, parce que je crois qu'il a été le premier musicien à avoir cette conception si haute et si pleine de pensée de la musique.
Oui, je ne connaissais pas cette lettre, mais c'est tout à fait ça. Peut-être un petit peu plus que ce qu'il pense. Il pense, lui, à révélation. Et la révélation est une forme de pensée, enfin d'existence, de comportement. Mais il a toute sa vie dans ses œuvres, on le voit, on le sent, on le sait. En plus, il a travaillé comme un bûcheron, comme un maçon, c'est-à-dire, à côté de la révélation, il y a tout le travail qui est fait d'une manière plus ou moins consciente. Et c'est dans ce sens-là que j'appelle pensée, c'est-à-dire révélation plus le travail conscient et logique. Je ne sais pas jusqu'à quel point il l'a fait. Ou alors la révélation, je pense que dans le sens qu'il entendait, c'était une révélation, la question et la découverte à chaque pas. Quand je dis découverte, c'est l'installation ou l'instauration de relations nouvelles, de démarches nouvelles, qui s'ouvre des voies possibles.
Et est-ce que l'œuvre de Beethoven vous semble justement prouver un peu cette démarche d'une découverte permanente?
Je crois, oui. C'est ce qui fait sa différence avec les innombrables symphonies de Mozart et de Haydn.
Ah, c'est que dans un sens, une symphonie de Beethoven n'appelle pas forcément la symphonie suivante, ni dans le genre, ni dans l'esprit.
Non, c'est une étape chaque fois différente. C'est une destruction et une reconstitution nouvelle, une réincarnation.
Je crois que c'est assez curieux parce que, à la fois chez Beethoven, nous avons l'impression que chacune de ses œuvres existe à part, comme un individu, spécialement, spécifiquement, et en même temps, il y a entre les différentes compositions beethoveniennes une sorte d'air de famille, une sorte de recherche qui se continue de l'une à l'autre, même on pourrait presque dire sur le plan de la thématique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est particulier à Beethoven ou que c'est la loi normale de tout musicien?
Là, vous touchez du doigt, je crois, un problème qui jusqu'ici est resté dans l'ombre. Une œuvre est, à mon avis, est une étape ou un repère ou un ensemble d'œuvres constitue comme une sorte de mosaïque de quelque chose de plus vaste. C'est-à-dire, il faudrait penser à une œuvre virtuelle grande englobant toutes les œuvres de Beethoven qui ferait Beethoven, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Beethoven ne serait pas dans une œuvre mais dans l'ensemble des choses comme la musique d'une certaine époque ne serait pas dans, chez un compositeur. Alors, donc, de niveau, de palier à palier, d'étage à étage, on arrive comme ça peut-être à classer et à comparer et à trouver des vérités qu'on ne voit pas si on est que devant un seul arbre, c'est-à-dire devant une seule composition ou un seul mouvement.
À la même époque que Beethoven, Goethe disait « Désormais, les écrivains écriront leurs œuvres complètes ». Est-ce que dans un sens, ça n'est pas dans la ligne de ce que vous venez de dire, que Beethoven est peut-être le premier à avoir écrit son œuvre complète et que chacune de ses œuvres ne prend son sens que par rapport à cette œuvre complète qui, au fond, est toujours virtuelle, puisqu'elle est toujours tranchée par les trois points de suspension de la mort.
Il a eu la chance de vivre assez longtemps et de faire quand même une chose importante dans sa vie, en comparaison avec Schubert, par exemple, ou d'autres compositeurs. Tenez, un autre compositeur, Brahms, dans ses premières sonates pour piano et violoncelle, pour moi, il y a tout Brahms dedans, tout ce qui le caractérise. Alors, c'est un peu comme si dans une œuvre, il y a déjà une anticipation, une virtualité de ce qui peut se produire, c'est-à-dire qu'elle est représentative d'un ensemble, donc de la personnalité. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette continuité qui contredit, dans l'essence même, l'effort de renouvellement et d'exploration nouvelle. Mais c'est ça le destin de la matière vivante, d'être en même temps liée à son passé, à elle-même, à des clichés donc, à des formules, et d'essayer de s'en dégager à chaque pas. Et si cet être arrivait à se dégager complètement, il serait un autre être, ce qui contredirait son identité. Donc c'est une terrible contradiction dans les faits même. Et on vit avec ces contradictions, il n'y a pas aucune raison de la résoudre. Enfin, c'est une résolution normale, c'est ce qui fait la vie d'ailleurs.
C'est un problème compliqué parce que si on pense alors que dans les premières sonates pour piano de Beethoven, par exemple, comme le dirait volontiers Claudel Fer qui le pense, qu'il y a déjà tout le langage du dernier Beethoven, il faut considérer cela un peu, selon vous, comme un appauvrissement.
Oui, oui, c'est une limite, c'est une limitation de la personnalité, de l'entité, enfin de l'homme.
Oui, au fond, c'est le problème de l'être un. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule, un individu qui peut donner cela et qui peut, à partir de cela, bâtir sa propre œuvre.
Oui, l'individu est une chose qui manque de plus en plus, n'est-ce pas, l'individualité, l'individualisation. C'est donc, ça peut s'exprimer de cette façon-là aussi, c'est-à-dire une différence par rapport au reste, aux autres, et c'est une des choses les plus précieuses.
Oui, est-ce que le génie n'est pas finalement de pousser son individu, c'est-à-dire dans ses limites bien données au départ, enfin constitutives à sa propre personnalité, jusqu'à un point extrême, dans sa propre logique?
Alors voyez-vous, là aussi, c'est un des étages, c'est-à-dire vous identifiez la permanence ou l'individu, l'identification avec sa caractéristique propre qu'il devrait pousser jusqu'au bout. Pousser jusqu'au bout, ça veut dire qu'il n'a pas atteint. Donc, il faut l'atteindre. C'est-à-dire qu'il faut changer pour l'atteindre. Parce que si on est arrivé déjà au bout, c'est fini. On n'a plus d'autre bout. Alors, vous utilisez une contradiction déjà dans ce que vous dites, mais que je trouve tout à fait normale et logique.
Et Beethoven vous semble assez exemplaire de cette démarche?
C'est un des cas rares. Il y a Bach aussi, mais je crois que tous les musiciens, enfin, tous les hommes, c'est humain ça, on ne peut pas dire qu'on est... Il y a des gens qui sont figés, bien sûr, à l'âge de 15 ans déjà, ils sont terminés. Il y en a d'autres qui sont plus lents et qui sont beaucoup plus délayés dans le temps. Il y en a d'autres qui arrivent à condenser, parce qu'il s'agit de ça finalement, la composition ou le travail, c'est condenser, donner dans des instants très brefs une grande quantité de travail, quand je dis travail au sens large. Et Beethoven, lui aussi, se comporte comme tout le monde. Seulement, on le voit d'une manière plus marquée, puisqu'on a ses œuvres les unes après les autres. On peut faire des va-et-vient.
Est-ce qu'il y a des catégories musicales, enfin suivant les termes qu'on pourrait prendre aujourd'hui, son, intensité, que Beethoven vous semble avoir utilisé mieux ou plus que d'autres?
Ah oui, à mon avis, il a fait sur ce plan assez élémentaire, c'est-à-dire, il est le premier peut-être à avoir utilisé d'une manière très poussée, très complexe, le forte et le piano, en fait. Je ne sais pas si c'est l'influence du piano, de l'instrument, mais en tout cas, lui, il a senti ça, il a vraiment fait quelque chose de nouveau, il a apporté quelque chose de nouveau dans la musique. Ce n'est pas simplement une... pour améliorer, enfin pour changer l'ennui, comme dans les pièces plus... les compositeurs plus anciens. C'était vraiment un outil nouveau.
Oui, c'était une dynamique essentielle à son œuvre.
Oui, une dimension nouvelle de la musique.
On a souvent fait la critique aux dernières œuvres de Beethoven, surtout à la Grande Fugue, d'être davantage une musique pour les yeux que pour les oreilles. C'est-à-dire, en fait, on critiquait la musique comme étant tout à fait abstraite. Est-ce qu'elle paraît aujourd'hui, à vos yeux de compositeur et de mathématicien, comme une véritable abstraction ou autre chose? Où est-ce que ça fait sa richesse?
Oui, quand on ne comprend pas une chose, on la taxe d'abstraite, ou de l'aide, ou de je ne sais pas quoi, ce qui est normal. Mais c'est à toutes les époques d'ailleurs, ça continue toujours. Mais peut-être que ce qui est le plus important chez Beethoven, c'est ce côté abstrait, comme on dirait aujourd'hui, ou dans les autres, enfin, qui n'est pas du cliché de sensiblerie, ou de, mais qui repose sur cette force de comparaison, de relation, de... démarche purement musicale. Il n'est pas triste, il est musical. Il n'est pas gai, il est la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il échappe au conditionnement de l'époque qui veut qu'un mineur soit triste et qu'un majeur soit gai, par exemple. C'est très trivial, mais je donne ça en exemple. Et il fait de la musique absolue. C'est dans ce sens-là qu'il y a abstraction. Mais cette abstraction, on la trouve chez le père Bach aussi, et chez tous les maîtres qui essaient de penser, de voir un peu plus clair par la musique. Donc c'est un trait non seulement, peut-être non seulement nécessaire, mais peut-être le plus permanent à travers les âges. Parce que le reste se perd très facilement. Ce qui se perd moins, ça se perd aussi, bien sûr. C'est les relations plus abstraites, justement.
Peut-on vous demander, Yanis Xenakis, si, en tant que compositeur, par rapport presque à votre création personnelle, il vous est arrivé quelquefois de penser à Beethoven d'une façon particulière, ou si Beethoven a pour vous une certaine présence, quelquefois, dans votre travail de création?
Quand j'étais jeune, j'ai découvert tout à coup Beethoven en écoutant la cinquième. Justement, je passais devant un poste TSF, je n'avais jamais entendu de ce genre de Beethoven. J'avais quel âge? J'avais 15-16 ans. Et ça a été une révélation, c'était un choc sonore. Bon, ensuite j'ai entendu ces derniers quatuors, ces dernières sonates, de plus en plus. C'est peut-être une des voies qui m'ont conduit au cœur de la musique, l'écoute de Beethoven. Mais ensuite, comme le reste, quand je dis le reste, c'est tout l'environnement philosophique et littéraire que j'avais quand j'étais jeune, je l'ai mis de côté, parce qu'il fallait agir.
Aussi des tâches plus urgentes.
Oui, aussi bien politiquement, dans la résistance et après, que dans l'action de la composition, du travail même. Et dans ce cas-là, il faut se purifier, il faut se retrouver, enfin, il faut sortir. les cailloux de la terre, enfin, même si elle est grasse. Et dans le temps à passer, les années, ça ne se fait pas pendant un mois ou deux, ça se fait pendant des années, j'ai oublié donc. Alors, l'influence que Beethoven a eue dans ma musique, elle est certaine, mais je ne sais pas où elle est. Et puis maintenant, je peux parler de Beethoven de cette façon. Il y a eu peut-être il y a 5-10 ans, dans peut-être 10 ans, je pouvais encore dire Beethoven ne connaît pas ou ça ne m'intéresse pas. Mais je crois être assez dégagé des contingences, enfin, des petites passions de détails ponctuels pour pouvoir reconnaître ses caractéristiques, ses forces, à lui et à d'autres aussi d'ailleurs, même à des contemporains.
Une dernière question, si vous permettez. Au début de votre livre « Musique formelle », dès le premier paragraphe, vous parlez de Beethoven. Pour dire que l'art, et surtout la musique, a bien une fonction fondamentale qui est de catalyser la sublimation qu'il peut apporter par tous les moyens d'expression. Il doit viser à entraîner par des fixations repères vers l'exaltation totale dans laquelle l'individu se confond en perdant sa conscience avec une vérité immédiate, rare, énorme et parfaite. Si une œuvre d'art réussit cet exploit, ne serait-ce qu'un instant, elle atteint son but. Cette vérité géante n'est pas faite d'objets, de sentiments, de sensations, elle est au-delà, comme la septième de Beethoven est au-delà de la musique. La septième symphonie de Beethoven, pourquoi est-ce elle que vous avez pris comme exemple ici ?
Pour deux raisons. Il y a le dernier mouvement qui est une espèce de tournoiement terrible dans un espace harmonique et rythmique tout à fait étrange, donc en dehors de ce qui précédait la symphonie. Et deuxièmement, c'est parce que je me souviens très bien d'une séance où Scherchen dirigeait un orchestre philharmonique avec lequel il s'était, est-ce que je peux dire du mal, pas du mal, mais enfin, je le dirais quand même. Il y avait des musiciens qui, comme d'habitude, fumaient ou lisaient le journal. Alors il leur a dit, messieurs, on est en répétition, vous avez l'entracte pour faire ça. Ils n'ont pas écouté, alors il a quitté deux fois. Il avait trois répétitions, la troisième c'était en direct l'émission. Donc deux fois il n'a pas eu de répétition. Il l'a fait, et c'est là où j'ai assisté, je n'ai pas assisté aux deux précédentes, la dernière répétition qui était aussi l'exécution. Avec au programme, il y avait une œuvre de Darius Milhaud, il y avait les offrandes oubliées de Messiaen, quelque chose de Debussy, et ça finissait, se terminait sur la septième de Beethoven. Et je ne savais rien de cette querelle entre lui, mais j'ai senti une tension au départ. Et petit à petit, cette tension s'adoucissait de plus en plus, et l'orchestre devenait autre chose. N'était plus un ramassis d'individus qui étaient contre le chef et contre la musique qu'il jouait, mais ils étaient coopérants, ils étaient consentants, et ils se transformaient en artistes, vraiment, et sous la baguette de Scherchen, et finalement ils ont attaqué la septième, et c'était une chose formidable. Quand ils ont fini la répétition, c'était une salle de répétition, c'était salle Erard même à l'époque, il n'y avait personne, donc il n'y a pas de public. L'orchestre s'est levé debout et a applaudi le chef. Là, il y a eu le dépassement d'eux-mêmes grâce à cette musique.
Ce que vous appelleriez l'extase, ce mot auquel vous tenez tellement.
Oh non, parce que je n'ai jamais bénéficié de l'extase. Hélas, non, mais c'est un peu dans ce sens-là.
C'est-à-dire... La sortie de soi.
Oui, la sortie de soi, oui.
Thank you.
Carlos Kleiber dirigeait la 7e symphonie opus 92 de Beethoven. C'est ainsi que s'achève la 5e séquence du 5e et dernier cycle de Beethoven année 200 par Brigitte et Jean Massin avec aujourd'hui Olivier Messiaen et Yanis Xenakis. Une émission diffusée la première fois le 11 février 1971.